Élisabeth tressaillait de joie en recevant cette double lettre. Depuis 8 ans que sa haine allait croissant chaque jour contre Marie Stuart, elle l'avait constamment suivi des yeux, comme une louve, une gazelle. Enfin, la gazelle venait chercher un refuge dans l'antre de la louve. Élisabeth n'en avait jamais espéré autant. Elle expédia aussitôt l'ordre au shérif du Cumberland de faire savoir à Marie Stuart qu'elle était prête à la recevoir. Un matin, on entendit sonner du cor sur le rivage de la mer. C'était l'envoyé de la reine Élisabeth qui venait chercher la reine Marie Stuart. Alors il y eut de grandes instances autour de la fugitive pour qu'elle ne se fiât point ainsi à une rivale de puissance, de gloire et de beauté, mais la pauvre reine dépossédée était pleine de confiance dans celle qu'elle appelait sa bonne sœur et croyait qu'elle allait, libre et exempte de soins, occuper à la cour d'Élisabeth la place due à son rang et à ses malheurs. Elle persista donc malgré tout ce qu'on put lui dire. De nos jours, nous avons vu même Vertige s'emparer d'un autre fugitif royal qui se fia, comme Marie Stuart, à la générosité de l'Angleterre, son ennemi. Comme Marie Stuart, il fut cruellement puni de sa confiance et retrouva dans le climat meurtrier de Sainte-Hélène l'échafaud de Fotheringay. Marie Stuart se mit donc en route avec sa petite suite. Arrivée au bord du golfe de Solway, elle y trouva le gardien des frontières anglaises. C'était un gentilhomme nommé Lowther qui reçut la reine avec les plus grands égards, mais qui lui signifia qu'il ne pouvait permettre qu'à 3 de ses femmes de l'accompagner. Mary Seyton réclama aussitôt son privilège. La reine lui tendit la main. « Hélas, mignonne, lui dit-elle, ce devrait cependant bien être le tour d'une autre, et tu as déjà assez souffert pour moi et avec moi. » Mais Marie, sans pouvoir répondre, se cramponna à sa main, faisant de la tête signe que rien au monde ne pourrait la séparer de sa maîtresse. Alors tous ceux qui accompagnaient la reine renouvelèrent leurs instances pour qu'elle ne persistât point dans cette fatale résolution, et comme elle était déjà au tiers de la planche qui conduisait à la chaloupe, le prieur de Dundrenham, qui avait offert à Marie Stuart une si dangereuse et si touchante hospitalité, entra jusqu'aux genoux dans l'eau pour essayer de la retenir. Mais tout fut inutile, la reine avait pris sa résolution. En ce moment, Lowther s'approcha de la reine. « Madame, lui dit-il, recevez de nouveau mes regrets de ce que je ne puis offrir une réception cordiale en Angleterre à tous ceux qui voudraient vous y suivre. Mais notre reine nous a donné des ordres positifs et il est de notre devoir de les exécuter. M'est-il permis de faire observer à votre majesté que la marée est favorable ?» « Des ordres positifs ?» s'écria le prieur. « Vous l'entendez, madame ? Ah, vous êtes perdue si vous quittez ce rivage. Arrière, pendant qu'il en est temps encore. Arrière, madame, au nom du ciel ! À moi, sire chevalier, à moi » s'écria-t-il en se retournant vers Lord Herries et les autres seigneurs qui avaient accompagné Marie Stuart. « Ne permettez pas que votre reine vous abandonne, et vous fallut-il lutter à la fois contre elle et contre les Anglais ?» « Retenez-la, mes seigneurs, au nom du ciel, retenez-la !»« Que signifie cette violence, sire prêtre ?» dit le gardien des frontières. « Je suis venu ici à la demande expresse de votre reine, et il n'y a pas besoin de recourir à la force pour cela. » Puis, s'adressant à la reine, « Madame, lui dit-il, de votre pleine et entière volonté, vous convient-il de me suivre en Angleterre ?» « Répondez, je vous en supplie, car il est important à mon honneur que le monde tout entier sache que vous m'avez suivi librement. »« Monsieur, répondit Marie Stuart, je vous demande pardon au nom de ce digne serviteur de Dieu et de sa reine, de ce qu'il a pu dire d'offensant pour vous. C'est librement que je quitte l'Écosse et que je me remets entre vos mains, dans la confiance où je suis, que je serai maîtresse ou de rester en Angleterre près de ma royale sœur, ou de retourner en France près de mes dignes parents. » Puis, se retournant vers le prêtre, « Votre bénédiction, mon père, et que Dieu vous protège !»« Hélas, hélas !» murmura l'abbé en obéissant à la reine. « Ce n'est pas nous qui avons besoin de la protection de Dieu, mais bien vous, ma fille. Puisse la bénédiction d'un pauvre prêtre écarter de votre tête royale les malheurs que je prévois. Allez, et qu'il en soit de vous ce que le Seigneur a décidé dans sa sagesse et dans sa miséricorde. » Alors la reine tendit la main au shérif, qui la conduisit dans l'esquif, suivi de Mary Seyton et de deux autres femmes seulement. Aussitôt, les voiles furent déployées et le petit bâtiment commença de s'éloigner des rivages du Galloway pour s'avancer vers le Cumberland. Tant qu'on put l'apercevoir, ceux qui avaient accompagné la reine demeurèrent sur la plage, lui faisant des signes d'adieu que, debout sur la poupe de la nef qui l'emmenait, elle le rendait avec son mouchoir. Enfin, la barque disparut et tous éclatèrent en plaintes ou en sanglots. Ils avaient raison, car les pressentiments du bon prieur de Dunraynham n'étaient que trop vrais et c'était la dernière fois qu'ils avaient vu Mary Stuart. En arrivant sur les côtes d'Angleterre, la reine d'Écosse trouva des messagers d'Élisabeth chargés de lui exprimer de sa part tout le regret que leur maîtresse éprouvait de ne pouvoir ni l'admettre en sa présence, ni lui faire l'accueil affectueux auquel la portait son cœur. Mais il était essentiel, ajoutèrent-ils, qu'auparavant la reine se justifiât de la mort de Darnley, dont la famille, étant sujette de la reine d'Angleterre, avait droit à sa protection et à sa justice. Mary Stuart était si aveuglée qu'elle ne vit point le piège et offrit aussitôt de prouver son innocence à la satisfaction de sa sœur Élisabeth. Mais à peine celle-ci eut-elle entre les mains la lettre de Mary Stuart que d'arbitre elle se fit juge et, nommant des commissaires pour entendre les parties, somma Murray de comparaître et de venir accuser sa sœur. Murray, qui connaissait les intentions secrètes d'Élisabeth à l'égard de sa rivale, n'hésita point un instant. Il arriva en Angleterre, porteur de la cassette qui contenait les trois lettres que nous avons rapportées, des vers et quelques autres documents qui prouvaient que la reine avait non seulement été la maîtresse de Bothwell du vivant de Darnley, mais encore avait eu connaissance de l'assassinat de son mari. De leur côté, Lord Herries et l'évêque de Ross, avocat de la reine, soutinrent que ces lettres avaient été supposées, que l'écriture en était contrefaite et demandèrent pour vérifier ce fait des experts qu'ils ne purent obtenir. De sorte que cette grande contestation resta pendante pour les siècles à venir et que rien encore, à cette heure, n'est résolu affirmativement sur ce sujet par les savants ni par les historiens. Après 5 mois d'enquête, la reine d'Angleterre fit savoir au parti que, n'ayant par cette procédure rien pu découvrir contre l'honneur de l'accusateur ni de l'accusé, toute chose resterait dans le même état jusqu'à ce que l'un ou l'autre pût lui fournir de nouvelles preuves. En conséquence de cette étrange décision, Élisabeth eut dû renvoyer le régent en Écosse et laisser Mary Stuart libre d'aller où elle voulait. Mais, au lieu de cela, elle fit transporter sa prisonnière du château de Bolton dans celui de Carlisle, de la terrasse duquel, pour comble de douleur, la pauvre Mary Stuart apercevait les montagnes bleuâtres de son Écosse. Cependant, parmi les juges nommés par Élisabeth pour examiner la conduite de Mary Stuart, était Thomas Howard, duc de Norfolk. Soit qu'il eût reconnu l'innocence de Mary, soit qu'il fût poussé par le projet ambitieux qui servit depuis de base à son accusation et qui n'était rien autre chose que d'épouser Mary Stuart, de fiancer sa fille au jeune roi et de devenir régent d'Écosse, il résolut de tirer la reine de sa prison. Plusieurs membres de la haute noblesse d'Angleterre, parmi lesquels étaient les comtes de Westmoreland et de Northumberland, entrèrent dans ce complot et s'engagèrent à le soutenir de toute leur puissance. Mais leur projet ayant été communiqué au régent, il le dénonça à Élisabeth qui fit arrêter Norfolk. Prévenus à temps, Westmoreland et Northumberland passèrent les frontières et se réfugièrent dans les marches du royaume d'Écosse qui étaient favorables à la reine Marie. Le premier gagna la Flandre où il mourut en exil. Le second, livré à Murray, fut envoyé au château de Lochleven, qui le garda plus fidèlement qu'il n'avait fait de sa royale prisonnière. Quant à Norfolk, il fut exécuté. Comme on le voit, l'astre de Mary Stuart n'avait rien perdu de sa fatale influence. Cependant, le régent était revenu à Édimbourg, riche des présents d'Élisabeth et ayant gagné de fait sa cause auprès d'elle, puisque Mary était restée prisonnière. Il s'était aussitôt occupé de disperser les restes de ses partisans, et à peine eut-il fermé les portes du château de Lochleven sur Westmoreland, qu'il poursuivit, au nom du jeune roi Jacques VI, ceux qui avaient soutenu la cause de sa mère, et parmi ceux-ci, plus particulièrement, les Hamilton, qui, depuis l'affaire du balayage des rues d'Édimbourg, étaient restés personnellement les ennemis mortels des Douglas. 6 des principaux membres de cette famille furent condamnés à mort et n'obtinrent la commutation de leur peine en un exil éternel que sur les instances de John Knox, qui était si influent alors en Écosse que Murray n'osa lui refuser leur grâce. L'un des amnistiés était un certain Hamilton de Bothwellhaug, homme des anciens jours de l'Écosse, sauvage et vindicatif comme les seigneurs du temps de Jacques Ier. Il était retiré dans les montagnes où il avait trouvé un asile lorsqu'il apprit que Murray, qui, en vertu de la confiscation prononcée contre les exilés, avait donné ses biens à un de ses favoris, avait eu la cruauté de chasser sa femme malade et alitée de sa propre maison, et cela sans lui donner le temps de s'habiller, et quoi qu'on fût dans les temps froids de l'année. La pauvre femme, au reste, sans asile, sans vêtements, sans pain, était devenue folle, avait erré quelque temps ainsi, objet de pitié, mais en même temps de terreur, car chacun avait peur de se compromettre en la secourant. Enfin, elle était revenue mourir de misère et de froid au seuil de la porte dont elle avait été chassée. En apprenant cette nouvelle, Bothwellhaug, malgré son caractère violent, ne manifesta aucune colère. Seulement, il répondit avec un sourire terrible « C'est bien, je la vengerai !» Le lendemain, Bothwellhaug quitta ses montagnes et descendit déguisé dans la plaine, muni d'un ordre de l'archevêque de Saint-André pour qu'on lui ouvrit une maison que ce prélat, qui, ainsi qu'on se le rappelle, avait suivi la fortune de la reine jusqu'au dernier moment, avait un lit Lithgow. Cette maison, située dans la rue principale, avait un balcon en bois qui donnait sur la place et une porte qui s'ouvrait sur la campagne. Bothwellhaug y entra de nuit, se logea au premier, étendit un drap noir sur les murs pour que son ombre ne fût point aperçue de l'extérieur, couvrit le plancher de matelas pour que ses pas ne fussent point entendus du rez-de-chaussée, attacha un cheval de course tout scellé et tout bridé dans le jardin, échancra le dessus de la petite porte qui donnait sur la campagne, afin d'y pouvoir passer au galop, s'arma d'une arquebuse chargée et s'enferma dans la chambre. Tous ces préparatifs avaient été faits, on le devine, parce que Murray devait passer le lendemain à Linlithgow. Cependant, si secrets qu'ils fussent, ils faillirent devenir inutiles, car des amis du régent le prévinrent qu'il n'y aurait pas de sûreté pour lui à traverser la ville qui appartenait presque entièrement au Hamilton, et lui conseillèrent de la tourner. Mais Murray était brave et habitué à ne point reculer devant un danger réel. Il ne fit donc rire d'un péril qu'il regardait comme imaginaire et suivit hardiment son premier plan, qui était de ne point se déranger de son chemin. En conséquence, comme la rue dans laquelle donnait le balcon de l'archevêque de Saint-André était sur son passage, il s'y engagea, non point marchant rapidement et précédé de gardes qui lui ouvrissent le chemin, comme le lui avaient encore conseillé ses amis, mais s'avançant au pas, retardé qu'il était par la grande foule qui encombrait les rues afin de le voir. Arrivé en face du balcon, comme si le hasard eût été d'accord avec le meurtrier, la presse devint si grande que Murray fut forcé de faire halte un instant. Ce repos donna à Bothwellhaug le temps de l'ajuster à coup posé. Il appuya son arquebuse sur le balcon et, l'ayant visé, avec tout le temps et le sang-froid nécessaires, il lâcha le coup. Bothwellhaug, ayant mis dans l'arquebuse une telle charge que la balle, après avoir traversé la poitrine du régent, alla tuer le cheval d'un gentilhomme qui était à sa droite. Murray tomba aussitôt en disant « Mon Dieu, je suis mort !» Comme on avait vu de quelle fenêtre était parti le coup, les gens de la suite du régent s'étaient aussitôt précipités contre la grande porte de la maison qui donnait sur la rue et l'avaient enfoncée. Mais ils étaient arrivés à temps seulement pour voir Bothwellhaug fuir par la petite porte du jardin sur le cheval qu'il avait préparé. Ils remontèrent aussitôt sur leurs chevaux qu'ils avaient laissés dans la rue et, traversant la maison, ils se mirent à sa poursuite. Bothwellhaug avait un bon cheval et quelque avance sur ses ennemis, et cependant 4 d'entre eux, le pistolet au poing, étaient si bien montés qu'ils commençaient à gagner sur lui. Alors Bothwellhaug, voyant que le fouet et les éperons étaient insuffisants, tira son poignard et s'en servit pour aiguillonner son cheval. Son cheval, sous ce stimulant terrible, reprit une nouvelle vigueur et, franchissant un ravin de 18 pieds, mit entre son maître et ceux qui le poursuivaient une barrière que ceux-ci n'osèrent franchir. Le meurtrier chercha un asile en France où il se retira sous la protection des Guises. Là, comme le coup hardi qu'il avait tenté lui avait acquis une haute réputation, on lui fit, quelques jours avant la Saint-Barthélemy, des propositions pour assassiner l'amiral de Coligny. Mais Bothwellow repoussa ses ouvertures avec indignation, disant qu'il était le vengeur de ses injures et non un assassin, et que ceux qui avaient à se plaindre de l'amiral n'avaient qu'à venir lui demander comment il avait fait et faire comme lui. Quant à Murray, il était mort dans la nuit qui avait suivi sa blessure, laissant la régence au comte de Lennox, père de Darnley. En apprenant la nouvelle de cette mort, Élisabeth s'était écriée qu'elle perdait son meilleur ami. Tandis que ces choses se passaient en Écosse, Marie Stuart était toujours prisonnière, malgré les réclamations pressantes et successives de Charles IX et de Henri III. Seulement, effrayée de la tentative qui avait été faite en sa faveur, Élisabeth l'avait fait transporter dans le château de Sheffield, autour duquel de nouvelles patrouilles étaient sans cesse en mouvement. Cependant, les jours, les mois, les années s'écoulaient, et la pauvre Marie, qui avait supporté si impatiemment sa captivité de 11 mois au château de Lochleven, était depuis 15 ou 16 ans déjà, malgré ses réclamations et celles des ambassadeurs de France et d'Espagne, traînée de prison en prison, lorsqu'elle fut enfin conduite au château de Tutbury, sous la garde de Sir Amyas Paulet, son dernier geôlier. Elle y trouva pour tout logement 2 chambres basses et humides, où peu à peu, ce qui lui restait de force s'épuisa tellement qu'il y avait des jours où elle ne pouvait marcher à cause des douleurs qu'elle éprouvait dans tous les membres. Ce fut alors que celle qui avait été reine de 2 royaumes, qui était née dans un berceau doré et qui avait été élevée dans le velours et dans la soie, fut obligée de s'abaisser à implorer de ce geôlier un lit moins dur et des couvertures plus chaudes. Cette demande, traitée en affaires d'État, donna lieu à des négociations qui durèrent 1 mois, après lequel on accorda enfin à la prisonnière ce qu'elle demandait. Et cependant, l'insalubrité, le froid et les privations de tout genre n'agissaient point encore assez activement sur cette organisation saine et robuste. On essaya de faire comprendre à Paulette quel service ce serait rendre à la reine d'Angleterre que d'abréger l'existence de celle qui, condamnée déjà dans la pensée de sa rivale, tardait tant à mourir. Mais Sir Amyas Paulet, tout grossier et dur qu'il était vis-à-vis de Marie Stuart, déclara que tant qu'elle serait chez lui, elle n'aurait rien à craindre du poison ni du poignard, attendu qu'il goûterait tous les mets qui seraient servis à sa prisonnière et que nul ne s'approcherait d'elle qu'en sa présence. En effet, des assassins envoyés par Lester, celui-là même qui, un instant, avait aspiré à la main de la belle Marie Stuart, furent chassés du château aussitôt que son sévère gardien eut appris dans quelles intentions ils y étaient entrés. Il fallut donc qu'Élisabeth prît patience en se contentant de tourmenter celle qu'elle ne pouvait pas tuer et espérant toujours qu'une nouvelle occasion se présenterait de la mettre en jugement. Cette occasion qui avait tant tardé, la fatale étoile de Marie Stuart l'amena enfin. Un jeune gentilhomme catholique, dernier reste de cette vieille chevalerie qui déjà commençait à s'éteindre à cette époque, exalté par l'excommunication du pape Pie V, qui déclarait Élisabeth, déchue de son royaume sur la terre et de son salut dans le ciel, résolut de rendre la liberté à Marie, que l'on commençait dès lors à regarder non plus comme une prisonnière politique, mais comme une martyre de sa foi. En conséquence, bravant la loi qu'avait fait rendre Élisabeth en 1585 et qui portait que, si quelque atteinte à sa personne venait à être méditée, par ou pour une personne qui se croirait des droits à la couronne d'Angleterre, il serait nommé une commission composée de 25 membres, laquelle, à l'exclusion de tout autre tribunal, serait chargée d'examiner le délit et de condamner les coupables, quels qu'ils fussent. Babington, sans être découragé par l'exemple de ses prédécesseurs, réunit 5 de ses amis, zélés catholiques comme lui, qui engagèrent leur vie et leur honneur dans le complot dont il était le chef et qui avait pour objet d'assassiner Élisabeth et pour résultat de placer Marie Stuart sur le trône d'Angleterre. Mais ce projet, si bien conduit qu'il eût été, fut révélé à Walsingham, qui laissa aller les conjurés aussi loin qu'il crut pouvoir le faire sans danger, et qui, la veille du jour fixé pour l'assassinat, les fit arrêter. Ce fut une grande joie pour Élisabeth que cette tentative imprudente et désespérée, qui, d'après le texte de la loi, mettait enfin les jours de sa rivale entre ses mains. Des ordres furent aussitôt donnés à sœur Amias Paulet de se saisir des papiers de la prisonnière et de la transporter au château de Fotheringay. Le geôlier alors, se relâchant hypocritement de sa sévérité ordinaire, offrit à Mary Stuart, sous prétexte du besoin qu'elle avait de prendre l'air, de faire une promenade à cheval. La pauvre captive, qui depuis 3 ans n'avait vu la campagne qu'à travers les barreaux de sa prison, accepta avec joie et sortit de Tutbury entre 2 gardes, montée pour plus grande sûreté, sur un cheval dont les jambes étaient entravées. Ces 2 gardes la conduisirent au château de Fotheringay, sa nouvelle demeure, où elle trouva l'appartement qu'elle devait habiter, déjà tout tendu de noir. Mary Stuart venait d'entrer vivante dans son tombeau. Quant à Babington et à ses complices, ils avaient déjà été exécutés. Pendant ce temps, on arrêtait ses 2 secrétaires, Curl et No, et l'on saisissait tous ses papiers que l'on envoyait à Elisabeth, qui, de son côté, donnait ordre aux 40 commissaires de se réunir et de procéder sans relâche au procès de la prisonnière. Ils arrivèrent à Fotheringay le 14 octobre 1586, et s'étant dès le lendemain rassemblés dans la grande salle du château, ils commencèrent l'instruction. Marie refusa d'abord de paraître devant eux, déclarant qu'elle ne reconnaissait point les commissaires pour ses juges, n'étant point ses pairs, et récusant les lois anglaises dont elle n'avait jamais éprouvé la protection et qu'il avait constamment abandonnée à l'empire de la force. Mais voyant que l'on n'en procédait pas moins et que toute calomnie était admise, personne n'étant là pour la nier, elle se décida à comparaître devant les commissaires. Nous allons rapporter les 2 interrogatoires que subit Mary Stuart tels qu'ils sont consignés dans le rapport de M. de Bellièvre à M. de Villeroy. M. de Bellièvre, ainsi que nous le verrons plus tard, avait été envoyé extraordinairement par le roi Henri III à Élisabeth. Étant la dite dame assise au bout de la table de la dite salle et les 10 commissaires autour d'elle, la reine d'Écosse commença à parler en ces termes. Je n'estime point que pas un de vous qui êtes ici assemblés soit mon égal ni mon juge pour m'examiner sur aucune accusation. Ainsi, ce que je fais et vous dis en ce moment est de mon propre et volontaire vouloir, prenant Dieu à témoin que je suis innocente et pure en ma conscience des impositions et calomnies dont on me veut charger. Car je suis princesse libre et née reine, soumise à personne sinon à Dieu, auquel seul je dois rendre compte de mes actions. C'est pourquoi je proteste de rechef pour que ma comparution devant vous ne me soit pas préjudiciable ni à moi, ni au roi, princes et potentats mes alliés, ni à mon fils, et je requiers que ma protestation soit enregistrée et j'en demande acte. Alors le chancelier, qui était un des commissaires, répliqua à son tour et protesta contre la protestation. Puis il commanda que lecture fût faite à la reine d'Écosse de la commission en vertu de laquelle ils agissaient, commission fondée sur les statuts et la loi du royaume. Mais alors, Mary Stuart répondit qu'elle protestait de rechef que les 10 statuts et lois étaient sans force contre elle, attendu que ces statuts et ces lois ne sont point faits pour des personnes de sa condition. À ceci, le chancelier répondit que la commission portait de procéder contre elle, même quand elle refuserait de répondre, et déclara qu'il serait passé outre à la procédure, attendu qu'elle était dans le double cas de la loi, les conjurés ayant non seulement conspiré pour elle, mais encore de son consentement. Ce à quoi la dite reine d'Écosse répondit qu'elle n'y avait seulement jamais pensé. Sur ce, on lui lut les lettres que l'on prétendait qu'elle avait écrites au sieur Babington et les réponses de celui-ci. Mary Stuart affirma alors qu'elle n'avait jamais vu Babington, qu'elle n'avait jamais eu aucune conférence avec lui, n'en avait de sa vie reçu une seule lettre et qu'elle défiait personne au monde de soutenir que jamais elle ait fait quoi que ce soit au préjudice ou à l'encontre de la dite reine d'Angleterre. Que d'ailleurs, aussi étroitement gardée comme elle est, hors de toute intelligence, éloignée et privée de ses proches, entourée d'ennemis, dépourvue enfin de tout conseil, elle n'a pas pu participer ni consentir aux pratiques dont on l'accuse, qu'il y a au reste beaucoup de personnes qui lui écrivaient, qu'elle ne connaît pas et qu'elle a reçu quantité de lettres sans savoir d'où elles lui viennent. Alors on lui lut la confession de Babington, mais elle répondit qu'elle ne savait ce que l'on voulait dire. Qu'au reste, si Babington et ses complices avaient dit de pareilles choses, c'étaient des hommes lâches, faux et menteurs. D'ailleurs, ajouta-t-elle, montrez-moi mon écriture et ma signature, puisque vous dites que j'ai écrit à Babington, et non des copies falsifiées comme celle-ci, que vous avez remplies à votre loisir des faussetés qu'il vous a plu d'y mettre. Alors on lui montra la lettre que Babington, disait-on, lui avait écrite. Elle regarda d'un coup d'œil, puis dit « Je ne connais aucunement cette lettre. » Sur ce, on lui montra sa réponse, et elle dit encore « Je ne connais pas davantage cette réponse. Si vous me montrez ma propre lettre et ma propre signature, contenant ce que vous dites, j'acquiescerai à tout. Mais jusqu'à présent, ainsi que je l'ai déjà dit, vous ne m'avez rien produit de digne de foi, sinon des copies que vous avez inventées et augmentées de ce que bon vous a semblé. » À ces mots, elle se leva, et avec des larmes plein les yeux, « Si j'ai jamais, dit-elle, consenti à de telles menées, ayant pour but la mort de ma sœur, je prie Dieu qu'il ne me fasse ni miséricorde ni merci. Je confesse avoir écrit à plusieurs que j'ai prié pour qu'ils advinssent à la délivrance de mes misérables prisons, où je languis, princesse captive et maltraitée, depuis 19 ans et 7 mois. Mais il ne m'est jamais venu, même dans l'esprit, d'écrire ou même de désirer de telles choses contre la reine. Oui, je confesse encore m'être employé pour la délivrance de quelques catholiques persécutés, et si j'eusse pu et pouvais encore, avec mon propre sang, les garantir et sauver de leur peine, je l'eusse fait et le ferai pour eux de tout mon pouvoir et afin d'empêcher leur destruction. » Alors, se retournant vers le secrétaire Walsingham, « Au reste, Milord, lui dit-elle, du moment où je vous vois ici, je sais d'où part le coup. Vous avez toujours été mon plus grand ennemi et celui de mon fils, et vous avez sollicité tout le monde contre moi et à mon préjudice. » Accusé ainsi en face, Walsingham se leva. « Madame, répondit-il, je proteste devant Dieu qui m'en est témoin que vous vous trompez et que je n'ai jamais rien fait contre vous qui soit indigne d'un homme de bien, ni comme individu, ni comme personnage public. » C'est tout ce qui fut dit et fait ce jour-là de poursuite jusqu'au lendemain où la reine fut de nouveau contrainte de paraître devant les commissaires. Et, étant assise au bout de la table de ladite salle et lady commissaires alentour, elle commença à dire à haute voix « Vous n'ignorez pas, milords et messieurs, que je suis souveraine, ointe et sacrée en l'Église de Dieu, et ne puis et dois, pour quelque chose que ce soit, être appelée en vos audiences et mandée à votre barre pour être jugée par la loi et les statuts que vous mettez en avant. Car je suis princesse et libre, et ne dois à nul prince plus qu'il ne me doit, et sur tout ce dont je suis accusée envers ma dite sœur, je ne puis répondre si vous ne permettez que je sois assistée de mon conseil. Et si vous passez outre, faites ce que vous voudrez, mais de toutes vos procédures, en réitérant mes protestations, j'en appelle devant Dieu, qui est le seul juge juste et vrai, et devant les rois et les princes, mes alliés et confédérés. » Cette protestation fut de rechef enregistrée, ainsi qu'elle en requit les commissaires. Alors on lui dit qu'elle avait en outre écrit plusieurs lettres au prince de la chrétienté contre la reine et le royaume d'Angleterre. « Quant à ceci, répondit Marie Stuart, c'est autre chose et je ne le nie pas, et si cela était encore à faire, je le ferai ainsi que j'ai fait pour chercher ma liberté. Car il n'y a ni homme ni femme au monde de moindre qualité que je ne le suis, qui ne le fisse et qui n'employasse l'aide et le secours de leurs amis, pour sortir d'une captivité aussi dure comme l'était la mienne. Vous me chargez par certaines lettres de Babington. Eh bien, je ne nie pas qu'il m'ait écrit et que je lui ai répondu. Mais si vous trouvez dans mes réponses un seul mot sur la reine, ma sœur, eh bien oui, il y aura lieu de me poursuivre. J'ai répondu à celui qui m'a écrit qu'il me mettrait en liberté, que j'acceptais son offre, s'il le pouvait, sans nous compromettre ni l'un ni l'autre. Voilà tout. « Quant à mes secrétaires, ajouta la reine, ce ne sont point eux mais les tortures qui ont parlé par leur bouche. Et quant aux confessions de Babington et de ses complices, il n'y a pas grand état à en faire, car maintenant qu'ils sont morts, vous en pouvez dire tout ce qui vous semble. Vous croyez qui voudra. » À ces mots, la reine refusa de répondre davantage si on ne lui donnait pas un conseil, et renouvelant sa protestation, elle se retira dans son appartement. Mais, ainsi que l'on avait menacé le chancelier, l'instruction fut continuée malgré son absence. Cependant, M. de Châteauneuf, ambassadeur de France à Londres, voyait les choses de trop près pour se tromper à leur marche. En conséquence, au premier bruit qui lui revint de la mise en jugement de Marie Stuart, il écrivit au roi Henri III afin qu'il intervînt en faveur de la prisonnière. Henri III envoya aussitôt à la reine Élisabeth une ambassade extraordinaire dont M. de Bellièvre était le chef. Et en même temps, ayant appris que Jacques VI, fils de Marie, loin de s'intéresser au sort de sa mère, avait répondu au ministre de France, Courcelles, qui lui parlait d'elle, « Je n'y peux rien, qu'elle boive ce qu'elle a versé. » Il lui écrivit la lettre suivante pour qu'il déterminât le jeune prince à le seconder dans les démarches qu'il allait faire. 21 novembre 1596. Courcelles, j'ai vu votre lettre du 4 octobre passé, en laquelle j'ai vu les propos que vous a tenus le roi d'Écosse sur ceux que vous lui avez témoignés de la bonne affection que je lui porte, propos par lesquels il a fait démonstration d'avoir tout le désir d'y correspondre entièrement. Mais je voudrais que cette lettre m'eût aussi fait connaître qu'il fût mieux incliné envers la reine sa mère et qu'il eût le cœur et la volonté de tout disposer de manière à l'assister dans l'affliction où elle se trouve maintenant, considérant que la prison où elle a été injustement détenue depuis 18 ans et plus l'a pu induire à prêter l'oreille à beaucoup de choses qui lui ont été proposées pour obtenir sa liberté, chose qui est naturellement fort désirée de tous les hommes, et plus encore de ceux qui sont nés souverains et pour commander aux autres, lesquels souffrent avec moins de patience d'être retenus ainsi prisonniers. Il doit aussi penser que si la reine d'Angleterre, ma bonne sœur, se laisse aller au conseil de ceux qui désirent qu'elle se souille du sang de la reine Marie, ce sera chose qui lui tournera à grand déshonneur, d'autant qu'on jugera qu'il aura refusé à sa mère les bons offices qu'il devait lui rendre envers ladite reine d'Angleterre, et qui eussent peut-être été assez suffisants pour l'émouvoir, s'il les eût voulu employer aussi avant et aussi vivement que le devoir naturel lui commandait. D'ailleurs, il y aura à craindre pour lui que, sa mère morte, son tour ne vienne, et qu'on ne pense à en faire autant de lui par quelque façon violente pour rendre la succession d'Angleterre plus aisée à prendre à ceux qui sont en état de l'avoir après la dite reine Élisabeth, et non seulement de frustrer le dit roi d'Écosse du droit qu'il y peut prétendre, mais rendra douteux celui-là même qu'il a à sa propre couronne. Je ne sais en quel état pourront être les affaires de ma dite belle-sœur lorsque vous recevrez cette lettre. Mais je vous dirai qu'en tout cas, je désire que vous excitiez fort le dit roi d'Écosse, avec les remontrances et toutes autres qui se pourront apporter sur ce sujet, à embrasser la défense et protection de sa dite mère, et lui témoigner de ma part que, comme ce sera chose dont il sera grandement loué de tous les autres rois et princes souverains, il doit être assuré qu'en y manquant, ce lui sera un grand blâme et peut-être un notable dommage en son propre particulier. Au surplus, quant à l'état de mes propres affaires, vous saurez que la reine, madame et mère, est sur le point de voir bientôt le roi de Navarre et d'entrer en conférence avec lui sur le fait de la pacification des troubles de ce royaume, à quoi, s'il porte autant de bonne affection que je le fais de mon côté, j'espère que les choses pourront prendre une bonne conclusion et que mes sujets auront quelque relâche des grands maux et calamités que la guerre leur fait ressentir. Suppliant le Créateur, Courcelles, qu'il vous ait en sa sainte garde. Écrit à Saint-Germain-en-Laye, le 21e jour de novembre 1586. Signé Henri. Et plus bas, Brûlart. Cette lettre décida enfin Jacques VI à faire une espèce de démonstration en faveur de sa mère. Il envoya Grey, Robert Melville et Couet près de la reine Élisabeth. Mais quoique Londres fût moins éloignée d'Édimbourg que de Paris, ce furent encore les envoyés français qui y précédèrent ceux d'Écosse. Il est vrai qu'en arrivant à Calais, le 27 novembre, M. de Bellièvre y avait trouvé un exprès de M. de Châteauneuf, chargé de lui dire de ne pas perdre un instant, lequel, pour aller au-devant de toutes les difficultés, avait nolisé un navire qui était tout prêt dans le port. Mais quelque diligence que ces nobles seigneurs eussent envie de faire, il leur fallut attendre le bon vouloir du vent, qui ne leur permit de se mettre en mer que le vendredi 28 à minuit. Encore le lendemain, en arrivant sur les 9 heures à Douvres, étaient-ils tous tellement ébranlés du mal de mer que force leur fut de demeurer un jour entier dans cette ville pour se remettre, de sorte que ce ne fut que le dimanche 30 que M. de Bellièvre put partir dans le coche que M. de Châteauneuf lui envoyait par M. de Brancaléon et se mettre en route pour Londres, accompagné des seigneurs de sa suite, qui étaient montés sur des chevaux de poste. Mais ne s'étant, pour réparer le temps perdu, reposé que quelques heures en route, ils arrivèrent enfin à Londres le lundi 1er décembre, à midi. Monsieur de Bellière envoya aussitôt un des gentilshommes de sa suite, nommé Monsieur de Villiers, vers la reine d'Angleterre, qui tenait sa cour au château de Richemont. L'arrêt était déjà secrètement prononcé depuis 6 jours et soumis au Parlement, qui en délibérait à huis clos. Les ambassadeurs français ne pouvaient plus mal prendre leur moment auprès d'Élisabeth. Aussi, pour gagner du temps, refusa-t-elle de recevoir M. de Villiers, lui faisant répondre qu'il saurait lui-même le lendemain les causes de ce refus. Effectivement, le lendemain, le bruit se répandit dans la ville de Londres que l'ambassade française était atteinte de contagion et que, deux des seigneurs qui la composaient étant morts de la peste à Calais, la reine ne pouvait, quelque envie qu'elle eût d'être agréable à Henri III, exposer sa précieuse existence en recevant ses messagers. L'étonnement de M. de Bellièvre fut grand en apprenant cette nouvelle. Il protesta que la reine avait été mise dans l'erreur par un faux rapport et insista pour être reçue. Néanmoins, les délais durèrent encore pendant 6 jours. Mais comme les ambassadeurs menaçaient de repartir sans attendre plus longtemps et qu'à tout prendre, Élisabeth, inquiétée par l'Espagne, tenait à ne pas se brouiller avec la France, elle fit dire, le 7 décembre au matin, à M. de Bellière, qu'elle était prête à le recevoir dans l'après-dînée au château de Richemont, lui et les seigneurs de sa suite. À l'heure indiquée, les ambassadeurs de France se présentèrent aux portes du château et, ayant été introduits auprès de la reine, la trouvèrent assise sur son trône et environnée des seigneurs les plus considérables de son royaume. Alors, messieurs de Châteauneuf et de Bellièvre, l'un ambassadeur ordinaire et l'autre l'envoyé extraordinaire, l'ayant salué de la part du roi de France, ils commencèrent à lui faire les remontrances dont ils étaient chargés. Élisabeth répondit, non seulement dans la même langue française, mais encore dans le plus beau langage qui se parlât à cette époque, et, se laissant emporter à la passion, remontra aux envoyés de son frère Henri que la reine d'Écosse l'avait toujours poursuivie et que c'était la troisième fois qu'elle avait voulu attenter à sa vie par une infinité de moyens. Ce qu'elle avait déjà trop supporté et avec trop de patience, mais que jamais chose ne l'avait si profondément blessée au cœur que la dernière conspiration, cet événement, ajouta-t-elle avec tristesse, lui ayant plus fait pousser de soupirs et verser de larmes que la perte de tous ses parents, d'autant plus que la reine d'Écosse était sa proche parente à elle-même et touchait au roi de France. Et comme, dans leur remontrance, messeigneurs de Châteauneuf et de Bellièvre lui avaient mis en avant plusieurs exemples tirés des histoires, elle reprit, pour leur répondre à cette occasion, le ton pédant qui lui était habituel, et leur dit qu'elle avait beaucoup vu et lu de livres en sa vie, et plus que 1000 autres de son sexe et de sa qualité n'avaient coutume de le faire, mais qu'elle n'avait jamais trouvé en eux un seul exemple d'un acte pareil à celui qu'on avait projeté sur elle, acte poursuivi par une parente que le roi son frère ne pouvait et ne devait pas soutenir en sa méchanceté, quand c'était au contraire un devoir à lui de hâter la punition qui était une justice. Puis elle ajouta, s'adressant particulièrement à M. de Bellièvre et en redescendant des hauteurs de son orgueil à un visage gracieux, qu'elle avait grand regret qu'il ne lui fût pas député pour une meilleure occasion, que dans quelques jours elle ferait réponse au roi Henri, son frère, de la santé duquel elle s'inquiéta avec sollicitude, ainsi que de celle de la reine-mère, qui devait éprouver une si grande fatigue de la peine qu'elle prenait à remettre la paix dans le royaume de son fils. Et alors, sans vouloir en plus entendre, elle se retira dans sa chambre. Les envoyés revinrent à Londres, où ils attendirent la réponse promise. Mais, tandis qu'ils l'attendaient sans qu'elle arrivât, ils apprirent sourdement l'arrêt de mort rendu contre la reine Marie, ce qui les détermina à retourner à Richemont pour faire de nouvelles remontrances à la reine d'Angleterre. Après 2 ou 3 voyages infructueux, ils furent enfin, le 15 décembre, admis pour la seconde fois en sa présence royale. La reine ne nia point que l'arrêt eût été rendu, et comme il était facile de voir qu'elle ne comptait pas en cette circonstance user du droit de grâce, M. de Bellièvre, jugeant qu'il n'y avait rien à faire, réclama un sauf-conduit pour retourner près de son roi. Élisabeth le lui promit sous 2 ou 3 jours. Le mardi suivant, 17 du même mois de décembre, le Parlement, ainsi que les principaux seigneurs du royaume, furent convoqués au palais de Westminster, et là, en pleine audience et devant tous, fut proclamée et prononcée la sentence de mort contre Marie Stuart. Puis cette même sentence, avec un grand appareil et une grande solennité, fut lue sur les places et dans les carrefours de la ville de Londres, d'où elle se répandit par tout le royaume. Et sur cette proclamation, les cloches sonnèrent pendant 24 heures, tandis que les ordres les plus sévères étaient donnés à chacun des habitants d'allumer des feux de joie devant leur maison, comme on a coutume de faire en France la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, au milieu de ce bruit de cloches, à la lueur de ces feux de joie, M. de Bellièvre, voulant, pour n'avoir rien à se reprocher, tenter un dernier effort, écrivit à la reine Élisabeth la lettre suivante. « Madame, nous quittâmes hier votre majesté, nous attendant, comme il vous avait plu de nous le dire, à recevoir sous peu de jours votre réponse touchant la prière que nous vous avons faite de la part de notre bon maître, votre frère, pour la reine d'Écosse, sa belle-sœur et confédérée. Mais comme ce matin nous avons été avertis que le jugement rendu contre ladite reine a été proclamé par la ville de Londres, quoique nous nous promissions autre chose de votre clémence et de l'amitié que vous portez au dit seigneur roi, votre bon frère, néanmoins, pour ne rien négliger de ce qui est notre devoir, et croyant en cela servir les intentions du roi notre maître, nous n'avons pas voulu manquer à vous écrire la présente, par laquelle nous vous supplions de rechef, bien humblement, de ne point refuser à sa majesté la prière très instante et très affectionnée qu'elle vous a faite, à ce qu'il vous plaise de conserver la vie à la dite dame reine d'Écosse, ce que le dit seigneur roi recevra pour le plus grand plaisir que votre majesté lui saurait faire. Comme, au contraire, il ne saurait advenir chose qui lui apportât plus de déplaisir et qui lui touchât plus au cœur que s'il s'était usé de rigueur à l'égard de la dite dame reine, étant ce qu'elle lui est. Et comme, madame, le dit seigneur roi, notre maître, votre bon frère, lorsque pour cet effet il nous a dépêchés par devers votre majesté, n'a point estimé qu'il fût possible, en aucune sorte, de se résoudre si promptement à une telle exécution, nous vous supplions, madame, très humblement, avant que de permettre qu'il y soit passé outre, de nous donner quelque temps pendant lequel nous l'avertirons de l'état des affaires de ladite reine d'Écosse, afin qu'avant que votre majesté ne prenne une résolution finale, elle sache ce qu'il plaira à sa majesté très chrétienne de vous dire, et remontrer sur la plus grande affaire qui, de notre mémoire, ait été soumise au jugement des hommes. Le sieur de Saint-Cyr, qui rendra la présente à votre majesté, nous apportera, s'il vous plaît, votre bonne réponse. Londres, ce 16e jour de décembre 1586. Signé de Bellièvre et de l'Aubépine Châteauneuf. Le même jour, le sieur de Saint-Cyr et les autres seigneurs français retournèrent à Richmond pour porter cette lettre. Mais la reine ne les voulut point recevoir, s'excusant sur une indisposition, de sorte qu'ils furent forcés de laisser la lettre à Walsingham, son premier secrétaire d'État, lequel leur promit d'envoyer la réponse de la reine le lendemain. Malgré cette promesse, les seigneurs français attendirent 2 jours encore. Enfin, le 2e jour, vers le soir, 2 gentilshommes anglais vinrent retrouver M. de Bellièvre à Londres, et de vive voix, sans aucune lettre qui confirmât ce qu'ils étaient chargés de dire, ils lui annoncèrent de la part de leur reine qu'en réponse à la lettre qu'ils lui avaient écrite, et faisant droit au désir qu'ils avaient manifesté d'obtenir pour la condamner un sursis pendant lequel il ferait connaître le jugement au roi de France, Sa Majesté voulait bien accorder 12 jours. Comme c'était le dernier mot d'Élisabeth et qu'il était inutile de perdre son temps à la presser davantage, M. de Genlis fut aussitôt expédié à Sa Majesté le roi de France, auquel, outre la longue dépêche de messieurs de Châteauneuf et de Bellièvre qu'il était chargé de remettre, il devait dire de vive voix ce qu'il avait vu et entendu relativement aux affaires de la reine Marie pendant tout le temps qu'il était demeuré en Angleterre. Henri III répondit à l'instant même une lettre contenant de nouvelles instructions pour messieurs de Châteauneuf et de Bellièvre. Mais quelque diligence que pût faire M. de Genlis, il n'arriva à Londres que le 14e jour, c'est-à-dire 48 heures après l'expiration du délai accordé. Néanmoins, comme le jugement n'avait point encore été mis à exécution, messieurs de Bellièvre et de Châteauneuf partirent à l'instant pour le château de Greenwich, situé à 1 lieue de Londres, et où était la reine faisant les fêtes de Noël, afin de la prier de leur accorder une audience dans laquelle ils pourraient transmettre à Sa Majesté la réponse de leur roi. Mais de 4 ou 5 jours, ils ne purent rien obtenir. Cependant, comme ils ne se rebutaient point et revenaient sans cesse à la charge, le 6 janvier, messieurs de Bellièvre et de Châteauneuf furent enfin mandés par la reine. Ils furent, comme la première fois, introduits avec toutes les formalités d'étiquette en usage à cette époque et trouvèrent Élisabeth dans sa salle d'audience. Les ambassadeurs s'approchèrent d'elle, la saluèrent et monsieur de Bellièvre commença de lui adresser avec respect, mais en même temps avec fermeté, les remontrances de son maître. Élisabeth les entendit d'un air d'impatience en se tourmentant fort sur son fauteuil, puis enfin, ne pouvant plus se contenir, elle éclata et se levant toute rougissante de colère, « Monsieur de Bellièvre, dit-elle, avez-vous bien chargé du roi, mon frère, de me tenir un pareil langage ?»« Oui, madame, répondit en s'inclinant monsieur de Bellièvre, j'en ai le commandement exprès. »« Et vous avez ce commandement écrit de sa main ?» continua Élisabeth. « Oui, madame, reprit avec le même calme l'ambassadeur, et le roi, mon maître, votre bon frère, m'a expressément chargé, par lettre signée de sa propre main, de faire à votre majesté les remontrances que j'ai eu l'honneur de lui adresser. Eh bien, s'écria Élisabeth sans plus garder de mesure, je vous demande copie de cette lettre, signée de votre propre main, et songez que vous répondrez de chaque mot que vous y aurez ôté ou ajouté. Madame, répondit monsieur de Bellièvre, ce n'est point le propre des rois de France ni de leurs agents de falsifier ni lettres ni écrits. Vous aurez donc dès demain matin les copies que vous demandez, et je vous réponds sur mon honneur de leur exactitude. Assez, monsieur, assez, dit la reine. Et faisant un signe à tous ceux qui étaient dans la salle de sortir, elle demeura près d'une heure avec messieurs de Châteauneuf et de Bellièvre. Nul ne sait ce qui se passa dans cette entrevue, sinon que la reine s'engagea à envoyer un ambassadeur au roi de France, lequel, promit-elle, serait à Paris, sinon avant, du moins en même temps que monsieur de Bellièvre, et serait porteur de sa résolution suprême sur les affaires de la reine d'Écosse. Alors Élisabeth se retira en faisant comprendre aux envoyés français que toute tentative nouvelle qu'il ferait pour la revoir serait inutile. Le 13 janvier, les ambassadeurs reçurent leur passeport et en même temps l'avis qu'un navire de la reine les attendait à Douvres. Le jour même de leur départ, il arriva une étrange aventure. Un gentilhomme nommé Stafford, frère de l'ambassadeur d'Élisabeth et du roi de France, se présenta chez M. de Trappe, un des employés de la chancellerie française, lui disant qu'il connaissait un prisonnier pour dette qui avait une chose de la plus haute importance à lui communiquer, et pour que celui-ci y mît plus d'empressement, il lui dit que cette chose touchait le service du roi de France et concernait les affaires de la reine Marie d'Écosse. M. de Trappe, quoique se défiant dès l'abord de cette ouverture, ne voulut point, au cas où ses soupçons le tromperaient, avoir à se reprocher aucune négligence dans une pareille et si pressante occasion. Il se rendit donc avec M. Stafford en la prison où était détenu celui qui voulait s'entretenir avec lui. Lorsqu'il fut en sa présence, le prisonnier lui dit qu'il était écroué pour une dette de 120 écus seulement et que son désir de liberté était si grand que si M. de Châteauneuf voulait payer pour lui cette somme, il s'engagerait à délivrer la reine d'Écosse du péril où elle se trouvait en poignardant Élisabeth. À ce propos, M. de Trappe, qui vit le piège où on voulait attirer l'ambassadeur français, s'étonna grandement et dit qu'il était certain que M. de Châteauneuf trouverait fort mauvaise toute entreprise qui aurait pour but de menacer en quoi que ce soit la vie de la reine Élisabeth ou la tranquillité du royaume. Puis, sans vouloir en entendre davantage, il revint vers M. de Châteauneuf et lui raconta ce qui venait de se passer. Aussitôt, M. de Châteauneuf, qui pénétra la véritable cause de cette ouverture, dit à M. Stafford qu'il trouvait étrange qu'un gentilhomme comme il était se chargeât vis-à-vis de notre gentilhomme d'une pareille trahison et l'invita à l'instant même à sortir de l'ambassade, le priant de n'y jamais remettre les pieds. Alors Stafford se retira et, ayant l'air de se croire un homme perdu, il supplia M. de Trappe de lui permettre de repasser la mer avec lui et les envoyés français. M. de Trappe en référa à M. de Châteauneuf qui fit aussitôt répondre à M. de Stafford que non seulement il lui avait défendu son logis, mais encore toute relation avec aucune personne de l'ambassade, qu'ainsi il devait bien voir que sa demande ne pouvait lui être accordée. Il ajouta que, s'il n'était retenu par les égards qu'il tenait à garder envers son frère le comte de Stafford, son collègue en ambassade, il dénoncerait sa trahison à l'instant même à Élisabeth. Le même jour, Stafford fut arrêté. Après cette conférence, M. de Trappe était parti pour rejoindre ses compagnons de route, qui avaient pris quelques heures d'avance sur lui, lorsqu'au moment d'arriver à Douvres, il fut arrêté à son tour et ramené dans les prisons de Londres. Interrogé le même jour, M. de Trappe raconta franchement ce qui s'était passé, en appelant à M. de Châteauneuf de la vérité de ce qu'il disait. Le lendemain, un second interrogatoire eut lieu, et son étonnement fut grand lorsqu'en demandant que celui de la veille lui fût représenté, on lui en montra seulement, selon l'habitude de la justice anglaise, des copies falsifiées dans lesquelles se trouvaient des aveux qui le compromettaient, ainsi que M. de Châteauneuf. Il réclama et protesta, refusa de répondre et de signer aucune chose nouvelle, et fut reconduit à la tour avec un redoublement de précautions qui avait pour but de faire croire à une importante accusation. Le lendemain, M. de Châteauneuf fut mandé devant la reine et là fut confronté avec Stafford qui lui soutint impudemment qu'il avait traité d'un complot avec M. de Trappe et un certain prisonnier pour dette, complot qui n'allait à rien moins qu'à mettre en danger la vie de la reine. M. de Châteauneuf se défendit avec la chaleur de l'indignation, mais Élisabeth avait trop grand intérêt à ne pas être convaincue pour se rendre même à l'évidence. Elle dit donc à M. de Châteauneuf que son caractère d'ambassadeur l'empêchait seul de le faire arrêter comme son complice, M. de Trappe. Et en voyant aussitôt, comme elle l'avait promis, un ambassadeur au roi Henri III, elle le chargea, non point de l'excuser du jugement qui venait d'être rendu et de la mort qui devait bientôt le suivre, mais d'accuser M. de Châteauneuf d'avoir trempé dans un complot dont la découverte seule avait pu la déterminer à consentir à la mort de la reine d'Écosse, certaine qu'elle était par l'expérience que tant que son ennemi vivrait, son existence à elle serait menacée à chaque heure.